rocher de ma vie. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Quand j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais.
Sur ma vie. Cet espoir est une encre commençons à élever nos voix ensemble. Alléluia. D'une seule voix, nous élevons ton nom, Seigneur, ce matin. Tu es digne de recevoir la louange. Et notre âme veut te bénir ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne veux pas oublier, Seigneur, je ne veux pas me taire, Seigneur, devant tant de bonté, tant de grâce, tant de puissance au travers de ma vie, mais je le sais au travers des vies qui sont là ce matin. Alors en reconnaissance, nous t'offrons notre louange, Seigneur. Commençons à donner la louange à Jésus ce matin. Nous te donnons notre louange, Seigneur, parce que c'est un temps pour toi. Et je sais que tu prends plaisir à entendre notre voix qui élève ton nom plus haut que nos situations. Alors Jésus, c'est ça qu'on veut faire maintenant. Ton église veut te louer, Seigneur. Alléluia, alléluia.
Oh. pense qu'on peut mieux faire, acclamer celui qui en est digne, peu importe ce qu'on sent, peu importe ce qu'on vit, celui qui prend soin de nous, celui qui pourvoit tous nos besoins, celui qui nous a sauvés, celui qui nous pardonne, celui qui nous guérit, celui qui est là, qui nous aime malgré tous nos défauts. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un homme qui a dit ça, qui avait des raisons d'en vouloir à Dieu, mais pourtant qui s'est rappelé à son âme que non, Dieu reste digne, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ressens. Bienvenue à tous, on vous a déjà souhaité la bienvenue, très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça va? Est-ce que vous avez évité le feu? Personne n'a brûlé? Alléluia, merci, gloire à Jésus, comme on dit dans certains endroits. Très content d'être avec vous, bienvenue aussi à ceux peut-être qui sont là pour la première fois. Alors c'est un exercice particulier, peut-être tu viens pour la première fois à l'église et puis tac, on fait un exercice d'incendie. Peut-être que ça peut sauver des vies aussi plus tard d'avoir fait cet exercice, en tout cas on l'espère. Mais en tout cas bienvenue à toi, sache que c'est plus que le dimanche, hein. L'EPI c'est pas juste des réunions le dimanche matin, il y a des groupes de maison, des groupes qu'on appelle des groupes de vie où on s'encourage ensemble, on se réunit autour de centres d'intérêt par rapport à l'âge aussi. Donc n'hésite pas à aller au stand vie d'église tout de suite à ta droite en sortant dans le hall où tu auras le programme de tout ce qui se passe à l'EPI en semaine et le week-end. On a différentes célébrations aussi spéciales, notamment la semaine prochaine où on a les célébrations spéciales baptême. Combien se réjouissent d'avoir des baptêmes, plusieurs personnes qui vont s'engager publiquement et raconter comment Jésus a changé leur vie. Très bonne occasion d'inviter ta famille, tes collègues, tes amis aussi. Donc c'est le dimanche 2 février, donc la semaine prochaine. Et le lendemain, du 3 au 5 février, on aura notre première session de l'année de jeûne et prière. De jeûne et prière avec le pasteur itinérant Emmanuel Menlein, qui est un auteur, un conférencier vraiment très apprécié en Alsace, mais même en France, et qui a beaucoup écrit sur le combat spirituel, et ce sera la thématique de ce jeûne et prière. Ça va vraiment être de l'enseignement, mais aussi le côté prière, on va rechercher la face de Dieu, et on va voir trois choses à savoir pour fortifier notre foi et nos pratiques dans ce domaine. Comprendre les fondamentaux, découvrir le fonctionnement du monde spirituel et les outils que Dieu met à notre disposition pour mener nos combats et remporter de nouvelles victoires en 2025. Est-ce qu'il y en a qui veulent être victorieux dans le domaine spirituel en 2025? Ou en tout cas, c'est un de mes souhaits pour moi, c'est une de mes prières pour ma propre vie et je pense pour beaucoup ici. Donc rendez-vous du 3 au 5 février à 19h dans cette salle, donc prochainement avec le pasteur Emmanuel Melian pour jeûner et prier ensemble. Le samedi 8 mars, maintenant je m'adresse à vous mesdames, le samedi 8 mars, ce sera le Women's Day. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous êtes une dame et vous ne savez pas ce qu'il y a pour les femmes ici. Chaque mois, il y a une matinée avec ce qu'on appelle les créatrices. Ils se réunissent chaque mois au rez-de-chaussée pour s'encourager, partager, parler de Dieu, prier ensemble. Et une fois par année, il y a un gros événement qu'on appelle le Women's Day, où là, c'est vraiment toute la journée, c'est payant parce qu'il y a un repas, c'est 12 euros, il y a un repas, mais il y a vraiment, vraiment une conférence qui va booster ta foi. Et là, la thématique en plus, vraiment intéressante, c'est forgée et prête. Forgée et prête. Nous, on croit que Dieu veut en 2025 à l'EPI des femmes qui sont forgées et prêtes pour témoigner, pour briller, pour aimer, pour servir, pour faire une différence. En tout cas, je le crois. Je ne sais pas vous, mais moi, je le crois. Amen. Amen. Et on aura la chance d'avoir comme oratrice Summer Balverde, qui fait partie de l'équipe pastorale à l'église Lille Métropole. Et peut-être que son nom de famille vous dit quelque chose. C'est la femme de Samuel Balverde qu'on a eue pour Ironman en octobre 2024, qui a aussi prêché dimanche matin. Vraiment un couple qu'on apprécie et on croit que Dieu a mis quelque chose sur son cœur justement pour venir vous encourager, mesdames. Donc le samedi 8 mars, on ne peut pas encore s'inscrire, mais ça va bientôt être en ligne, ça va bientôt être pour pouvoir s'inscrire. Mais en tout cas, samedi 8 mars, 12 euros l'entrée avec repas et avec une belle conférence pour s'encourager. Je termine avec ça. On n'oublie pas aussi nos aînés. La sortie des aînés, l'excursion des aînés, le 15 mai, si je ne me trompe pas, le 15 mai, au lac de Gérardmer. Donc, pour s'inscrire, rien de plus simple, sortez à votre droite, stand vie d'église, vous donnez votre nom, et parce que les places sont limitées, hein, on part en bus, les places sont limitées, l'année dernière c'était plein, là je crois qu'il y a un deuxième bus qui s'est rajouté, parce que c'est vraiment quelque chose d'apprécié, on passe des bons moments ensemble, on s'encourage, avec l'équipe pastorale, on était aussi là l'an dernier, puis on a vraiment passé du bon temps. Donc c'est une bonne occasion d'apprendre à connaître aussi certaines personnes que tu ne connais pas encore, donc en tout cas, réserve ta place, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, donc ça sera le 15 mai. Mais date limite, le vendredi 28 février pour s'inscrire. Je vais inviter Mathieu maintenant à s'avancer. On va prier pour lui. C'est, on le dit encore, mais une thématique vraiment particulière. On croit que Dieu veut nous parler à travers cette thématique. Et je vais juste prier pour que Dieu parle à travers Mathieu à nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce temps de louange. Merci parce que tu es celui qui nous donne cet espoir, telle une encre pour notre âme, Seigneur. Et on te prie ce matin, on veut avoir des cœurs disposés, des cœurs à ton écoute. Alors viens parler à travers Mathieu, viens lui donner les mots, les phrases qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir parler à notre cœur. Et rapproche-nous de toi, on veut plus de toi en 2025, Seigneur. Donc viens faire ton œuvre à travers lui, au nom de Jésus. Amen.
Merci Jérôme, que Dieu me donne à 80 ans d'avoir la dynamique de Jérôme quand je serai vieux et que je puisse encore être énergique comme lui à 80, 90 ans. Merci beaucoup. Je voudrais démarrer en saluant des amis qui sont peut-être en visite ou qui viennent pour les premières fois. J'ai rencontré une belle famille mauricienne, c'est les cousins des Réunionnais. Donc je veux vraiment les saluer. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui peut-être pour là où les premières fois nous visitent, sont de passage, ont été invitées? Pouvez-vous faire connaître, vous la famille aussi, faites-vous connaître comme ça les gens vous voient. On peut vous applaudir. Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour les premières fois? Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus. Vous arrivez avec nous dans une série, depuis maintenant 3 semaines, nous abordons une série qui s'appelle « Entre nous ». Une série sur les relations et plus particulièrement sur les relations amoureuses. Et on arrive à la moitié de cette série maintenant, à mi-parcours. Et nous explorons les dimanches matins spécifiquement ce sujet important des relations amoureuses. Pourquoi ? Parce que premièrement, les relations amoureuses concernent tout le monde. Elles ne sont ni secondaires, ni accessoires. Elles transcendent les générations, les cultures, les saisons de vie. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit veuf, qu'on soit divorcé, chacun est concerné d'une manière ou d'une autre aux relations amoureuses. Chaque personne ici, la personne à ta droite, la personne à ta gauche, chaque personne ici représente une saison de vie différente dans le domaine des relations amoureuses. Et Dieu, il a un encouragement. Dieu, il a des conseils pour nous, comme Anne et Jérôme l'ont développé dans les 2 premiers messages. La deuxième raison pourquoi nous faisons cette thématique entre nous, parce qu'il est important, aujourd'hui, en 2024, d'aborder des sujets extrêmement concrets. Si la majeure partie de nos prédications sont des prédications qu'on appelle textuelles, c'est-à-dire qu'on fait du verset par verset. J'ai regardé, en 2024, on a fait environ 45 prédications le dimanche matin textuelles, verset par verset sur 52 dimanches. Nous croyons en tant qu'équipe pastorale qu'il est parfois nécessaire de s'arrêter sur des sujets thématiques comme celui-ci. Ces séries, pour nous, on croit que c'est un moyen d'appliquer des vérités éternelles à des réalités actuelles, terrestres, humaines. Jésus lui-même, et j'ai redécouvert ça dans mes lectures, je viens de finir l'évangile de Jean et j'ai redécouvert ça, Jésus lui-même enseignait souvent à partir du quotidien de ses auditeurs. Il parlait de leur quotidien pour les conduire à une compréhension plus profonde du monde spirituel et de comment ça se passe, les principes divins dans nos vies aujourd'hui. Et on est conscient que certains sujets peuvent raviver certaines blessures. On est conscient que parfois ça peut emmener de l'inconfort. Mais nous croyons que le Seigneur veut utiliser ces messages pour encourager, pour guérir, pour équiper chacune et chacun d'entre nous, tout en rendant sensible chacun de nous aux défis des autres autour de nous. La troisième raison, c'est que le but de nos célébrations, de nos groupes de vie, des ministères qu'on a ici à l'Église, des événements, le but, on n'a qu'un seul but, bâtir l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ, bâtir toute l'Église. Toutes nos relations dans la vie de tous les jours sont un miroir à notre relation avec Dieu. Nos relations ici sur terre, elles révèlent les valeurs du Christ auxquelles nous aspirons. Ces valeurs que nous voulons vivre dans notre quotidien, l'amour, le pardon, la patience, le sacrifice. Nos relations sont un miroir à la relation qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Certaines vérités peuvent sembler évidentes et on le comprend tout à fait pour certains, mais elles sont en même temps des révélations pour d'autres. Nous avons tous besoin de ces moments ensemble pour nous encourager mutuellement, pour bâtir une maturité, pas seulement individuelle, mais notre cœur de berger, c'est qu'on bâtisse une maturité collective. Je ne pourrai jamais me réjouir que lui grandisse et qu'elle ne grandisse pas. Mon cœur débordera toujours pour dire « grandissons ensemble ». L'Église n'est pas seulement une communauté où Dieu me parle à moi, mais aussi à mon frère, à ma sœur, avec qui je forme l'Ecclésia, le dimanche matin. L'ecclésia, communauté, c'est le mot grec qui a donné église. Alors en continuant ce voyage avec moi ce matin, ma prière est celle-ci. Seigneur, que ces messages soient une source de réflexion, une source de transformation, une source de croissance spirituelle, afin que nos relations, mes relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, professionnelles, fraternelles, deviennent un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Ça, c'est ma prière. Et dans ma prière, je veux y mettre aussi, Seigneur, d'autre part, je prie que ces enseignements d'aujourd'hui soient une source de bénédiction entre nos mains à toutes et tous, pour quelqu'un qui sera dans le besoin demain. Un frère, une sœur, un collègue, un voisin. Que ces enseignements soient entre nos mains une source de bénédiction pour quelqu'un demain. Alors je vais prier pour qu'on puisse continuer ensemble aussi cette série. Et puis après, vous allez découvrir mon thème. Seigneur, je te remercie pour ces temps. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Cette année, Seigneur, nous avons déclaré ensemble que nous voulons être la lumière du monde, en toi, pour toi, avec toi. Oui, nous avons dit, Seigneur, nous voulons briller là où nous sommes. Nous voulons être cet abri, ce refuge où les personnes peuvent venir être restaurées, guéries. Nous voulons être ce lieu, ce centre de formation où des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes grandissent en vie de disciples. Nous voulons être ce chandelier qui éclaire et qui bénit Strasbourg et l'Eurométropole. Alors accompagne-nous dans cette série. Que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions être bénis, renouvelés, encouragés, édifiés. Amen. Allez, on découvre la thématique d'aujourd'hui. Subir mon mariage ou pas. Et là, il y a plusieurs réactions qui vont émerger. C'est tout à fait normal. Et certains, ou même la majorité de l'Église, pourraient dire, attends, Mathieu, un couple chrétien peut-il vraiment subir son mariage? Calme-toi, Mathieu. Quand on a prié, on a respecté des repères bibliques durant notre célibat, message de Anne. Quand on a cherché la volonté de Dieu pour choisir son conjoint ou sa conjointe, message de Jérôme. Peut-on encore connaître des frustrations, des disputes, des souffrances ou des crises dans nos mariages? Allez, j'enfonce une porte ouverte. Hein. La réponse est un grand oui. Hein. Parce qu'un mariage, et on va être honnête, et je vais essayer d'être le plus honnête possible avec vous ce matin, le mariage, c'est un subtil équilibre entre communication, confiance et complicité. Communication, confiance et complicité. Et justement, j'aimerais vous présenter différents couples que j'ai découverts sur Internet. Ils m'ont vraiment touché et puis j'aimerais vous partager un petit peu leur expérience. Voilà le premier couple que j'aimerais vous présenter ce matin.
Videos que te ayudan a desestresarte.
Eux, ils doivent découvrir un petit peu en équipe les bouteilles
Cero
en dessous de couleur et refaire la même combinaison au-dessus. Et vous allez voir, c'est un super travail d'équipe qui sont en train de vivre.
Un acierto.
El verde.
No, el verde estaba aquí no. Y el naranja estaba aquí. Así.
Cero acierto.
Bien. No lo regreses.
Un acierto.
Uno, ¿es el verde que va aquí?
El naranja es el que va aquí. El naranja déjalo ahí.
Cero acierto.
No muevas esto.
Un acierto. Cero acierto.
Bien.
Dos acierto.
Este, el rosa, no. El fucsia. El...
La communication. La communication.
Bien.
Yo quiero jugar para allá.
No puede, la porque esto es un acierto, dijo él, lo dijo hace ratico.
Tres aciertos.
Viste, pero ¿por qué le echas?
Porque él no sabe, el jurado no sabe. Sí, déjame.
La complicité.
Un acierto.
El fucsia y el naranja, yo siempre lo dije. Te vas a caer tú solito. Te vas a caer tú solito. No estás jugando bien.
¿Cómo así?
Vas a perder, no. Te dije aquí el naranja y aquí el fucsia.
Yo creo que vas a hacer.
No, ahí no va. Va, voltealo. Aquí va el fucsia. No, aquí va el fucsia.
¿Así?
Sí.
¡Ah! ¡Ah!
¡Sí, no es cierto!
¡Dime! ¡Dime! ¡Viste, yo te dije!
Ça, c'est un des couples qui m'a renvoyé à certaines communications que je peux avoir avec Magali parfois. Et j'aimerais vous présenter un autre couple, un peu dans la vie de tous les jours. Eux aussi, ils m'ont interpellé. Tu peux balancer.
J'ai vidé le lave-vaisselle, préparé le repas, lancé une machine et en fait, je crois que je vais pas pouvoir continuer à vivre comme ça. Passer ma vie à faire des corvées, tu vois, c'est pas moi.
Hé, détends-toi. Tout va s'arranger.
Ah bon ? Et comment ?
Viens, je vais te montrer.
Voilà, je fais ça depuis qu'on a emménagé. Tu vois cette panier plein de trucs ? Je sais pas si c'est la maison ou autre chose, mais à chaque fois que je dépose n'importe quel vêtement sale dans cette panière, eh bien le lendemain, il est propre, repassé, plié et en pile. Posé sur le lit.
T'es pas sérieux, là ?
Au départ, moi non plus, j'y croyais pas. Mais chaque jour, ça se reproduit. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Je voulais pas que la magie s'arrête.
Mais t'es fou !
Essaye, et tu verras. À moins que je sois l'élu, dans ce cas-là, je sais pas.
Non, je peux pas continuer cette discussion, là.
Non, mais attends. Il y a autre chose. Assiette. Couvert. Boîte de pizza, mouchoir sale. Tout ce que je laisse sur cette table basse disparaît tout bonnement pendant la nuit. Parfois même, j'essaie de voir jusqu'où je peux pousser le truc. Et je laisse exprès du bazar, partout. Et le lendemain, tout a disparu. Évaporé. C'est magique.
Sans lever les mains, quel homme se reconnaît à travers cet homme ? Non, ne levez pas les mains, ne levez pas les mains. Là, on parle de jeu de couleurs, on parle de ménage, de complicité, de communication, de confiance et tout. Et je voudrais, dans la présence de Dieu, Dieu est avec nous ce matin, je voudrais le remercier pour la franchise des auteurs bibliques qui rédigent des histoires de couples croyants dans la Bible sans jamais omettre les crises qu'ils ont traversées. La Bible n'a pas peur de nous parler des vraies affaires concernant le couple. Adam et Ève se sont blâmés mutuellement. Abraham, le père de la foi, a eu des problèmes, des conflits avec sa femme à cause des enfants. Rebecca, une des figures messianiques pour arriver jusqu'à Jésus. Ils vivront du favoritisme concernant les enfants et il y aura des grandes tensions au sein de ce couple. Osée et Gomer, l'épouse, sera infidèle à son mari dès le début de leur histoire. David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, et Bathsheba, qui commettront ensemble l'adultère et ils vont aussi perdre un enfant. Dieu veut nous parler de la vraie vie. Et quand ces textes sont enseignés, ils ne sont pas enseignés juste à des grands, ils sont enseignés à toute la foule. On pourrait se dire que ces mariages qui sont en crise se trouvent que dans l'Ancien Testament. Et puis quelqu'un dirait, oui mais Matthieu, en Jésus, toute chose est nouvelle. Jésus fait toute chose nouvelle. Et je dis amen, c'est vrai à ça. Alors j'ai découvert un fait surprenant. Le Nouveau Testament parle peu de couples croyants en crise. Mais celui qui se distingue souvent par ses conflits, le couple qui revient le plus souvent quand il est question de crise, devinez c'est quel couple ? Christ et sa fiancée l'Église. C'est le modèle de couple le plus développé, le plus prêché dans le Nouveau Testament. Alors oui, c'est une métaphore spirituelle, certes, mais elle illustre l'union sacrée par excellence dans le cœur de Dieu et tout le dysfonctionnement que ce couple, Christ-Église, connaît. La fiancée perd son premier amour pour Christ régulièrement. La fiancée est souvent spirituellement infidèle. Elle est régulièrement en conflit avec son fiancé, avec son époux. Elle manque parfois de vigilance, pour ne pas dire souvent. Elle manque de persévérance. Et malgré les failles relationnelles de la fiancée, l'Église, vous remarquerez avec moi que Christ reste fidèle. Christ reste patient. Christ reste aimant. Il reste impliqué et concerné pour sa relation de couple, pour son mariage, mais aussi pour sa restauration. Et je crois là qu'il y a un message puissant pour les couples chrétiens d'aujourd'hui et pour les couples chrétiens de demain. Christopher Ashe, qui est pasteur, auteur de plusieurs livres sur le mariage, propose une définition qui est assez concise, synthétique du mariage biblique dans son essai, une conception biblique du mariage. Il dit ceci, « Le mariage est une union donnée par Dieu, instituée par Dieu, une union qui est volontaire, sexuelle, publique et sociale, d'un seul homme avec une seule femme, donc hétéronormée, issue de familles différentes, dans le but de servir Dieu. Et le socle de tout cela, on le trouve dans Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 18. On va lire quelques extraits de ce passage-là. Je vous emmène avec moi dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que Dieu soit béni pour cette phrase. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. Quel beau poème d'écriture. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et on arrive au verset 24 qui est repris trois fois dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, dans Marc et dans Éphésiens. Jésus va le citer et Paul va le citer. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il y a toute la notion d'avoir une autonomie émotionnelle, une autonomie financière quand on quitte ses parents. Il s'attachera, dans l'original, il s'alliera à sa femme. Donc il y a une notion forte d'alliance, d'engagement conjugaux qu'on appelle le mariage. Et ils ne formeront qu'un, donc l'intimité sexuelle appuyée dans les versets qui suivent, ils ne formeront qu'un, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Liberté sexuelle consentie, liberté sexuelle consommée, je laisse tout ça au pasteur Raymond Pierre Fagnard. En sachant très bien de quoi l'être humain est fait, Dieu prend pourtant le risque d'instituer cette union. D'instituer cette union qui est si singulière. Elle est singulière par rapport à toutes les autres unions qui peuvent exister sur cette terre. Il institue le mariage. Mais alors, à quel moment ça part en vrille? À quel moment ça part en vrille au point qu'on puisse parfois subir son mariage? Chrétien, croyant, y vivre parfois des conflits, des désaccords, des blessures qu'on va infliger à l'autre ou des blessures qu'on nous inflige à nous. Et mon objectif ce matin, et j'essaye d'avoir toute la tendresse possible, mais en même temps toute la profondeur et toute la foi, mon objectif ce matin, c'est justement d'apporter ma contribution afin de nous aider à prendre conscience de la réalité de périodes de dysfonctionnement, de ne pas être dans le déni. Nous rencontrons parfois dans le pastorat des couples en déni. Des couples qui n'osent pas regarder en face ce qui est en train de se passer. Il y a des dysfonctionnements, des crises qui peuvent survenir dans le mariage, même quand on prie, même quand on jeûne, même quand on va au culte, même quand on donne sa dîme, même quand on fait le jeûne et prière qui va arriver en février, il peut y avoir des crises qui surviennent. Et surtout, nous aider à s'en sortir, nous aider à sortir de ces crises. Car je voudrais juste, on pourrait parler de plein de choses, et c'est un vrai défi pour moi, mais je voudrais juste justement pour aider les uns et les autres et moi-même à sortir de ces dynamiques-là, je voudrais vous parler de trois remèdes que Dieu nous apporte. Et le premier remède, c'est oser l'humilité. Oser l'humilité, oser reconnaître que nous sommes tous les deux en devenir. On est tous en devenir. Le taux de divorce dans les églises aujourd'hui est le même que celui de la moyenne nationale française. Ce n'est pas le simple fruit du hasard. Le mariage réunit deux personnes en devenir. deux personnes faillibles, deux personnes confrontées à des défis personnels et des défis relationnels. Et souvent, un grand nombre de ces problèmes ne sont pas réglés avant le mariage. C'est pourquoi nous invitons ceux qui vivent les pieds au quotidien régulièrement avec nous. Nous offrons, et l'Église peut offrir, des parcours pour couples. Ça ne règle pas tout, mais ça donne des bases, ça accompagne, ça permet aux couples de mettre en lumière des sujets, des points d'ancrage pour bâtir, pour consolider le couple, pour être mieux équipé face aux défis du couple. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en projet, s'il vous plaît, à vous rapprocher, de vous faire connaître pour que vous puissiez découvrir notre parcours pour couple et nourrir votre futur foyer. Jean est un témoin oculaire et un très très proche de Jésus. Et il va écrire une lettre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et il va évoquer dans sa lettre cette tension qu'il y a dans le couple chrétien, qu'il y a dans le disciple de Jésus, qu'il y a en nous, une tension entre la chair, notre humanité qui est là, qui est en transformation, et l'esprit. L'identité spirituelle que Dieu donne aux croyants, la communion avec Dieu que nous avons aujourd'hui. Et il va s'adresser dans sa lettre, non pas à des gens qui n'ont pas la foi, il s'adresse à des disciples de Jésus, des chrétiens, des fervents adorateurs du Dieu très haut. Et voici ce qu'il dit dans sa lettre, 1 Jean chapitre 1 et verset 8. « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion de la vérité, et la vérité pardon, n'habite pas en nous. Verset 9, si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Le couple chrétien n'échappe pas au combat spirituel contre le péché. Le couple chrétien n'échappe pas au combat spirituel contre le péché. Le péché qui cherche à germer, qui cherche à amplifier des dysfonctionnements au sein du couple et des futurs couples. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Prenez les changements physiques, par exemple. Qui a changé après son mariage? Ok, personne à part moi, c'est bien. Prenez les changements physiques par exemple. Moi, je vous garantis, alors, au prochain Ironman, les gars, vous remettez votre costume de mariage. Non, non, vous n'allez pas en acheter un, vous remettez le premier. Je pense qu'il y aura 2% des gens qui rentreront dans leur costume. D'accord ou pas? Ok. Et donc, du coup, prenez les changements physiques, par exemple, dans le couple. La prise de poids ou alors la perte de poids. Des crises émotionnelles, des crises professionnelles, comme le chômage. Mais attention, des fois on dit, ah, perte de travail, attention, danger. Des fois, les promotions peuvent être un danger pour le couple. Qui dit promotion, dit peut-être plus d'enjeux au niveau financier, dit moins de temps à passer à la maison. La maladie qui peut survenir d'un moment à l'autre. Une foi chrétienne en crise d'un des conjoints. Tu t'es marié avec quelqu'un qui croit en Jésus, 3 ans de mariage après, la personne te dit, je commence à avoir des doutes sur l'existence de Dieu. La venue d'un enfant. Moi, Gabriel, je l'aime comme un fou. Mais qu'est-ce qu'il a chamboulé mon agenda de vie? Alors quand Madeleine est arrivée, les amis, j'ai compris que je n'avais plus prise sur rien. La venue d'un enfant, le deuil, des blessures non réglées du passé. Ces situations peuvent déclencher une crise et le couple doit accompagner cette crise, doit gérer cette crise de manière constructive. Dans l'idéal, il devrait l'accompagner, le gérer à deux, dans le respect, l'unité et la foi. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est souvent dans ces moments-là que ce couple se fragilise dangereusement. Pourquoi? Parce que le péché, l'ego, l'égoïsme, l'individualisme ou encore des tentations qui nous font tomber, par exemple, dans l'infidélité, germent et empêchent le « nous » de se battre correctement en Dieu. Il y a une statistique glaçante que j'ai découverte en 2022. Une étude menée par l'agence Statista en France révèle, auprès de 1000 femmes et 1000 hommes en couple, révèle que 46% des hommes et 38% des femmes sondées ont déjà eu des rapports sexuels avec une autre personne que leur partenaire ou conjoint. En 2024, les couples chrétiens doivent prendre conscience de ces enjeux-là, pour eux-mêmes, mais pas que pour nous-mêmes, pour les générations futures, pour les jeunes couples chrétiens, pour ceux qui se prédestinent à fonder un foyer pour honorer Dieu. L'enjeu, il est là, nous devons être intentionnels là-dessus. Mais comment sortir de ces spirales? Comment sortir de ces crises que l'on subit ou que l'on a causées? Parce que je voudrais aussi parler à ceux qui causent des dommages, Pas que ceux, celles et ceux qui subissent. Entre les pleurs, la colère, l'envie de tout balancer, alors c'est des choses normales, des phases normales dans une restauration, dans un processus de guérison. Mais permettez-moi juste ce matin de nous rappeler qu'avec la grâce de Dieu, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Nous avons la présence de Dieu, nous avons des amis, nous avons des proches, nous avons une église locale. Elle n'est pas parfaite, mais elle croit dans un Dieu parfait. Et nous avons des conseillers qui sont prêts à nous aider à retrouver une posture intérieure extrêmement importante. On pourrait vous proposer plein d'outils, plein de clés, plein de... Non, l'église de l'Épi, son cœur, c'est d'emmener celui qui passe par une crise à une posture intérieure qui est le démarrage de tout. Et cette posture intérieure, pour guérir, pour être restauré, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité de reconnaître que je suis autant en devenir que l'est mon conjoint ou ma conjointe. Souvent, on est dans le piège de « j'ai raison, elle a tort ». Dieu veut t'emmener à l'unité de dire « t'es autant en construction que l'autre ». Et là, il faut l'humilité. Alors, je sais que cette posture intérieure et le texte que je vais lire sera pris de différentes manières selon la saison dans laquelle vous êtes, mais permettez-moi juste de relire ce qu'est l'humilité dans la Bible. Philippiens chapitre 2, verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Parfois, pour faire bonne impression, on cache. Et ça, c'est un des premiers pièges. Parce que quand c'est caché, ça ne vient pas à la lumière. Si ça ne vient pas à la lumière, il n'y aura pas de guérison. Que par humilité, chacun considère son frère, sa sœur comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Et ça, c'est difficile. Il faut beaucoup d'humilité quand quelqu'un nous a fait du mal pour prendre ses progrès à cœur. Quand tu m'as fait du mal, tu devrais déjà avoir pardonné, fait 30 millions de prières pour moi. Tu devrais être la personne qui me sert le plus, tes progrès sont trop lents, je voudrais que tu changes, mais prends ton temps, mais je veux que tu changes demain. L'humilité désire au contraire que le bien du prochain soit pris en compte, que les progrès du prochain soient pris en compte. Rebâtir ou bâtir la confiance dans un couple, même après une infidélité, n'est pas chose facile, mais c'est chose possible. Cela demande beaucoup de courage. Cela demande de l'humilité. L'humilité nous aide puissamment. Elle nous aide à reconnaître nos torts, à demander pardon ou alors à pardonner. L'humilité nous aide à servir notre conjoint ou notre conjointe dans ces moments de crise. Le mariage est une institution divine parfaite qui unit deux personnes imparfaites. C'est ça la réalité. Et vous et moi, à la lumière de la Bible, nous avons de bonnes nouvelles, et pour nos couples, et pour les futurs couples, et pour les anciens. Oui, le mariage est une institution divine parfaite, mais on peut dire à la lumière de la parole de Dieu, constituée de deux êtres imparfaits, mais deux êtres en devenir. En devenir. L'humilité nous fait prendre conscience que je suis en devenir. Mon conjoint, ma conjointe est aussi en devenir. Et vous savez, à partir de là, tout devient possible. C'est comme quand on est devenu chrétien, souvenez-vous. Nous sommes passés par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est l'humilité de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est loin de Dieu, qu'on est séparé. À partir du moment où on s'est humilié, on a une vie nouvelle. Le principe est le même pour nos couples ce matin. L'humilité a cette vertu de nous propulser à revivre à nouveau un amour, mais pas n'importe quel amour, un amour sacrificiel, un amour qui se donne. Et c'est mon deuxième remède que Dieu nous offre ce matin. Oser vivre cet amour qui se donne. Je ne pourrais pas parler du mariage avec vous qui êtes en ligne et nous qui sommes ici sans relire encore et encore cet hymne au mariage, cet hymne de l'amour sacrificiel que beaucoup d'entre nous, nous n'aurions pas voulu que ce soit dans la Bible, tellement on a l'impression que la barre est haute. Mais Dieu, s'il a décidé que c'est là, c'est pour servir notre édification. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Je lirai aussi ici quelques extraits. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Alors comment cette intersoumission fonctionne entre le mari et la femme? Verset 22. Vous, épouse, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Verset 25. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Verset 28. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc s'aimer soi-même, fait un renvoi ici hein, à la Genèse. Hein. S'aimer soi-même. Verset 31. C'est pourquoi l'homme délaissera son père et mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Nous apprenons à relationner avec Dieu en apprenant à relationner dans notre couple. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, et que chaque femme, chaque épouse, estime et respecte son mari. Je peux entendre un grand amen de l'Église ? Amen. Mmh. Moi, j'ai préparé le message, j'étais obligé de dire « Oui, Seigneur, amen ». Ce texte qu'on vient de lire n'est pas un palier à atteindre. Ça, c'est très important de le comprendre. Parfois, on confond. On lit la Bible et on se dit « Ça, c'est le palier à atteindre ». Les amis, on ne pourra jamais, par nos propres forces sur cette terre, atteindre parfaitement tous les paliers que Dieu voudrait qu'on franchisse. Par contre, c'est un idéal. C'est un idéal auquel on aspire à chaque jour. C'est un idéal, c'est une mentalité à nourrir. C'est j'aspire, je vise, je vais aller dans cette direction-là, Seigneur, d'être un époux selon le cœur de Dieu, d'être une épouse selon le cœur de Dieu. L'amour sacrificiel, c'est un amour qui s'engage dans un apprentissage de tous les jours. Et je vous résume cet apprentissage. Bâtir, désapprendre, et réapprendre ensemble. Bâtir, désapprendre et réapprendre ensemble. Dit autrement, l'amour qui se donne, c'est comme cultiver un fruit pour qu'il devienne mûr et qu'il soit prêt à être partagé. Et concrètement, ce fruit de l'amour qui se donne, il ressemble à peu près à ça. Galates chapitre 5, verset 22. Oui, j'aurais pu lire 1 Corinthiens 13, mais non, on va lire Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience quand il y en a un qui parle à la fin de la célébration alors que toute la famille attend dans la voiture. Le bon caractère, alors qu'on est en table, ça commence à se prendre la tête avec l'adolescent qui ne veut pas finir son assiette. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. La confiance dans les autres, la confiance dans les autres. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Verset 25, puisque l'Esprit Saint est la source, le moteur de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire. Bien souvent, quand je lisais Galates 5, 22, c'était pour mes relations avec mes voisins, mes collègues, avec l'Église, que j'en avais presque oublié qu'en fait, le premier fruit à cultiver, c'est dans mon propre jardin. Cette présence de Dieu, cette vie, cette force, ce fruit de l'Esprit, j'aimerais juste vous rappeler qu'il est en nous, croyants. Pas besoin de courir et de chercher dans tous les jardins, dans tous les potagers de France et de Navarre, dans tout l'Internet. Vous et moi, qui aimons Jésus, qui confessons par nos bouches et nos vies Jésus Sauveur et Seigneur, je suis, tu es, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Donc à partir de là, le fruit de l'esprit est en nous. Mais parce qu'on n'est pas des robots aux yeux de Dieu, Dieu n'a pas fait de nous des robots sans marge de manœuvre dans notre vie, sans marge de manœuvre dans notre couple. Il y a une démarche qui est demandée, une démarche nécessaire de notre part pour que le fruit de l'esprit produise par nous des actes concrets dans le mariage. Si je le dis autrement, pour oser vivre une vie concrètement poussée, propulsée par un amour qui se donne, il nous faut nous exposer. Il nous faut nous exposer à des environnements, à des conditions qui sont favorables pour qu'on puisse porter du fruit. Le fruit est là, mais il faut s'exposer à sa lumière. Il faut s'exposer à des environnements qui vont permettre à ce fruit de se multiplier et de se communiquer. Et c'est là qu'on a besoin d'humilité, parce que les premiers pas sont souvent les plus difficiles. Avec les statistiques que je vais vous donner dans un instant sur la prière, je dois confesser, et dans la préparation, j'ai bien senti le Saint-Esprit qui le disait, alors je vais le faire. Je dois confesser que je ne suis pas toujours très bon élève dans le domaine. Je suis plus souvent en prière pour mon couple, pour Magali, pour mes enfants, pour mon foyer, dans mes temps de dévotion, dans mes temps personnels avec Dieu. Mais j'ai encore une belle marge de progression devant moi pour d'autres aspects de la prière. Quelques statistiques. Une enquête menée par Pew Research Center en 2014, donc il y a 11 ans. Donc imaginez bien qu'il y a encore des choses qui ont pu évoluer. Hein. Cette enquête a révélé que 55% des couples chrétiens évangéliques disent prier ensemble, au moins occasionnellement, mais seulement une minorité affirme le faire régulièrement. La prière, c'est une exposition au développement du fruit de l'esprit dans le couple. La prière ensemble est une exposition pour le développement du fruit de l'esprit dans le couple. Une autre étude de Barna Group, qui est plus connue dans les milieux chrétiens, en 2017 a indiqué que parmi les chrétiens pratiquants, c'est-à-dire qui vont régulièrement à une célébration, qui sont engagés pour le développement, pour faire des disciples et autres, environ 33% des couples prient ensemble quotidiennement. Près de 50% déclarent prier ensemble de temps en temps ou rarement. Une proportion significative, environ 20%, ne prient jamais ensemble. Il y a 20% de personnes, du coup, qui se privent d'être exposées à un environnement qui va leur permettre aussi de pouvoir nourrir et bénir leur couple. Une étude réalisée par l'association NAME aux États-Unis a rapporté que moins de 1% des couples sondés qui prient ensemble régulièrement, divorcent. Moins de 1% des gens. C'est quand même une statistique qui est forte et qui souligne le rôle protecteur de la prière dans le mariage. Alors j'aimerais le dire comme ça, je l'écris comme ça, j'ai bien aimé l'expression. Jugez-moi. Chauffons-nous à prier l'un pour l'autre et chauffons-nous à prier l'un avec l'autre. À se plonger dans des temps de louange, de lecture régulière de la Bible ensemble, ou alors si des fois la mécanique est un peu crispée, utilisez, prenez le temps dans des groupes de maison, dans des célébrations, dans des temps forts en semaine pour être ensemble, exposés à la prière, exposés à la louange, exposés à l'enseignement de la parole de Dieu, exposés à tout cet environnement qui pourra faire nourrir votre fruit de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de secret. L'amour qui se donne, c'est une multitude de petits gestes répétés. Une multitude de petits gestes répétés. L'amour qui se donne, c'est des petits gestes et ça ne va pas tout de suite sembler changer tout ton environnement et que ta crise, elle s'en aille tout de suite. Mais sachez une chose, l'amour qui se donne, c'est une multitude de petits gestes qui se succèdent, mais qui fortifient, qui réparent, qui posent les bases de quelque chose de nouveau. L'amour qui se donne, il écoute. L'amour qu'il se donne, il dialogue. L'amour qu'il se donne, il choisit le silence quand il le faut. L'amour qu'il se donne, il accepte le compromis. L'amour qui se donne fait preuve de patience. L'amour qui se donne s'exprime à travers des actes concrets et des actes même disciplinés. Alors exposons-nous à des relations, exposons-nous à des dialogues qui restaurent et valorisent la confiance. Parfois, nous, chrétiens, nous nous exposons à des environnements qui ne valorisent pas la confiance et la fidélité. Il y a des choses auxquelles on s'expose qui pourrissent notre fruit de l'esprit. Alors que Dieu nous aide en 2025, que Dieu nous aide dans nos couples, que Dieu vous aide, vous qui allez bâtir demain un couple, vous qui allez éduquer des enfants qui vont bâtir un couple demain, à encourager les à s'exposer à des relations et des dialogues qui restaurent, des relations et des dialogues qui valorisent la confiance, qui valorisent la fidélité, qui valorisent la patience, qui valorisent la bienveillance. Évitons certains lieux, certaines personnes qui auraient peut-être des discussions nuisibles, qui iraient attaquer notre fruit de l'esprit. Comme Joseph qui, à un moment donné, il était solo, mais à un moment donné, il aurait pu être une occasion de chute et de briser un couple. Il a décidé de fuir la femme de Potiphar. Certaines fois, la fuite, c'est la réponse et l'arme spirituelle pour le chrétien. en complément de la prière, en complément du jeûne, selon la gravité de la crise, exposons-nous à des consultations auprès de personnes compétentes pour nous encourager. Dieu, exposons-nous à Dieu, aux soins pastoraux. Peut-être la gravité de la crise fait qu'il y a besoin d'un accompagnement par une thérapie, ou alors de rencontrer un sexologue. Et je vais vous le dire, ce n'est pas un péché. Le troisième remède, maintenant, le dernier aussi, osez voir notre mariage comme un témoignage. Osez voir notre mariage comme un témoignage. Dans son essai, Christopher Hash propose une définition concise du but du mariage. Il dit ceci, le mariage a été créé afin que nous puissions servir Dieu. Servir Dieu. Notamment au travers d'une intimité fidèle, au travers des relations sexuelles correctement ordonnées et au travers des enfants. Servir Dieu. Ton mariage, un témoignage. Matthieu chapitre 5, verset 14, qui est ce verset qui nous accompagne depuis mars de l'année dernière avec cette vision brillée, là où vous êtes. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ce n'est pas la plus simple partie que je m'apprête à traiter ici. Le monde observe. Le monde observe les chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes un continent judéo-chrétien, parce que nous avons une histoire chrétienne et que le christianisme a offert à ce continent de tellement belles choses. Mais il a été aussi à l'origine de plusieurs drames. Et le christianisme ne peut pas laisser indifférents les Européens, les Européennes, les Français et les gens qui vivent dans notre pays. Le monde observe. Et mon mariage, ton mariage, chrétien, peut, je sais que c'est pas simple à le voir là maintenant pour certains, mais peut devenir un témoignage de l'amour de Dieu, un témoignage de la grâce de Dieu, un témoignage de la fidélité de Dieu. Car pour chaque effort d'amour sacrificiel que tu fais dans ton mariage, Dieu agit en arrière-plan pour sa gloire. Dieu est avec toi, Dieu te lâche pas. Une union authentique, une union vraie, une union vulnérable va attirer les autres à Christ. Une union comme une union qui est faite dans le Seigneur, comme nous venons de le prêcher depuis ces quelques minutes, va inspirer les générations de l'Église. Et j'ai envie de vous dire à vous toutes et tous qui êtes là, les générations de l'Église ont besoin de nous. Ont besoin d'être inspirées par nous, nos enfants, nos petits-enfants, mon fils, ma fille. Ont besoin d'être inspirés par l'Église. Ils ont besoin aussi de l'Église. Vous n'êtes pas juste là en figuration, mes frères et mes sœurs. Nous sommes là pour bâtir le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a cette réalité d'être la lumière de ce monde. Le monde nous observe. La manière dont nous vivons notre union aujourd'hui va attirer les autres à Christ, va inspirer des générations. Je ne pourrai jamais me mettre, parce que j'ai lu la définition du mariage. Et oui, le mariage a été institué par Dieu aussi pour qu'on puisse avoir des enfants de manière naturelle. Et je ne peux pas me mettre à la place des couples en difficulté pour avoir des enfants. Je ne pourrai jamais pleinement comprendre votre souffrance, votre culpabilité, alors que vous ne devriez pas en avoir. Mais ma foi me rappelle ce matin et m'a rappelé pendant ce message, cette préparation, que Dieu, lui, vous comprend parfaitement. Dieu, lui, vous aime parfaitement. Vous n'êtes ni des sous-couples et vous n'êtes ni des mauvais couples. Au nom de Jésus, ces paroles-là soient brisées si elles ont été dites sur votre vie. Briller pour Dieu, oui, c'est faire des disciples, c'est engendrer, c'est aimer l'autre, c'est guérir l'autre, c'est équiper, c'est missionner. Je vais inviter l'équipe à venir. Je me souviendrai toujours de Mémé Laurette. Alors je sais que peut-être j'en ai déjà parlé à l'épi. Qui se souvient de Mémé Laurette si je l'ai déjà parlé ? Ah ben c'est cool, je vais vous parler de Mémé Laurette alors. Je me souviendrai toujours de Mémé Laurette. Mémé Laurette est devenue veuve très très tôt. Elle a eu plusieurs enfants et son mari est décédé. Ils étaient très très jeunes dans leur mariage. Elle va éduquer ses enfants. Elle avait très peu de moyens financiers. Je me souviens d'un de ses témoignages où elle disait qu'à un moment donné, vu que dans cette période-là, à l'île de la Réunion, c'était souvent le monsieur qui allait travailler, et si le monsieur, le mari mourait, il n'y avait plus du tout de moyens de subsistance. Et elle me disait un jour, alors que j'étais en train de boire le café chez elle, elle me dit, tu sais Mathieu, ça a été dur, parce qu'il fallait que je puisse dire aux enfants, sans leur dire vraiment qu'il faut qu'on rationne, parce qu'on n'aura pas de repas, on n'aura pas de nourriture pour tenir toute la semaine. Et à un moment donné, je suis arrivé au bout, il n'y avait plus rien. Et elle me disait, et ça me fait rappeler mon enfance, peut-être les Mauriciens, les Réunionnais, vous souviendrez, elle m'a dit, elle est allée dans sa cuisine, c'était en terre rouge, et elle est allée à genoux dans sa cuisine en terre, elle a dit, Seigneur, si tu ne me pourvois pas à nos besoins, on va mourir, Seigneur. Et moi, je suis en train de boire mon petit café, je suis en train de l'écouter, elle est en train d'édifier ma foi, je dis, mais comment ça va s'unir, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, dans l'après-midi, alors qu'elle avait prié le matin, elle entend quelqu'un qui sonne, elle va ouvrir, et puis quelqu'un avait déposé des sacs de courses devant la porte. Et moi, j'avais quelques mois. Et cette femme, cette mamie était en train d'édifier ma voix. Tous les samedis, elle ouvrait sa maison pour que je puisse aller boire un café, pour que je puisse être encouragé dans le témoignage. Et Mémé Laurette m'a spirituellement élevé. Quand je venais à peine de devenir chrétien, elle m'a enseigné la prière. Elle m'a enseigné la discipline. Il fallait être là tous les samedis matins. Sinon, Mémé Laurette, t'es claquot. Voilà, ceux qui comprennent comprendront. Fallait être là. En fait, c'était même pas un ordre. C'était une joie, un plaisir d'aller voir Mémé Laurette parce qu'elle m'enseignait la parole, parce qu'elle me nourrissait de foi. Elle m'enseignait la prière. On ne quittait jamais la maison de Mémé Laurette sans qu'on puisse apprendre à prier pour ma journée d'études. Elle m'a appris toutes ces choses. Alors, je reviens là. Je ne suis pas à la place de certaines et certains d'entre vous qui ne pouvaient peut-être pas avoir d'enfants de manière naturelle. Mais je voudrais être le porte-parole de plusieurs enfants spirituels qui ont besoin de père et de mère dans la foi. Je voudrais être le porte-parole de plusieurs ici à l'église, des générations qui sont en train d'arriver, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de personnes qui accordent du temps pour s'investir à épisodes, cadeaux aux jeunes, qui s'investissent dans enjeux, qui investissent pour que ces enfants qui ont besoin, ces enfants spirituels qui ont besoin de père et de mère dans la foi puissent en trouver. Je voudrais m'adresser à vous qui passez par des moments difficiles aussi, vous voulez avoir fondé un foyer, tout ça, et les fils et les filles spirituels de l'EPI, et ceux peut-être autour de vous, ont besoin de couples comme vous pour apprendre à s'accrocher à Dieu, même dans l'épreuve. Je m'inquiète, moi. J'entends de moins en moins parler d'un évangile qui dit « accroche-toi à Dieu même quand Dieu ne répond pas ». C'est « accroche-toi à Dieu, Dieu répond tout le temps ». C'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. On a besoin de retrouver des disciples de Jésus qui osent prêcher l'évangile qui dit que Dieu réponde ou que Dieu ne réponde pas. Que l'Éternel soit béni. Des hommes, des femmes qui montrent ce que ça signifie d'être accroché à Dieu, même dans l'épreuve du veuvage, même dans l'épreuve de l'infertilité, même dans l'épreuve de la maladie, même dans l'épreuve de crise de couple. Je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que Dieu fait des couples chrétiens, aussi fragiles soient-ils, il en fait des témoins de sa grâce et de sa miséricorde. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à prier maintenant pour qu'on puisse ensemble intercéder. On peut se lever dans la présence de Dieu ce matin. Ça arrive toujours au bon moment, n'est-ce pas? J'aimerais lancer un appel. Un appel à des couples et des personnes qui ne sont pas forcément encore en couple, qui s'interrogent, qui se projettent, ou qui sont bien dans leur célibat, mais qui voudraient s'engager, déjà maintenant, pour leur foyer futur. Un appel à oser l'humilité, comme je l'ai prêché. Un appel à reconnaître que je suis en devenir et que la personne avec qui je vais bâtir ma vie ou je bâtis ma vie est aussi en devenir. Mais ce n'est pas juste une prière, il faut que ça devienne une stature, il faut que ça devienne une mentalité, il faut que ça s'ancre en nous ce matin, il faut que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit ces choses. Un appel à oser l'amour qui se donne. Épouse, époux, c'est peut-être le moment de réenclencher une dynamique d'amour qui se donne. Je sais que ce n'est pas simple. Mais il y a un appel de Dieu pour toi ce matin. Un appel aussi à oser voir notre couple, notre mariage, comme un témoignage. Si dans ton cœur tu veux répondre à cet appel ce matin, je voudrais juste te demander que tu puisses dire en ton cœur, il n'y a pas besoin de lever les mains, en ton cœur. Si ton épouse ou ton époux est à côté de toi, tu peux aussi prendre sa main ou pas, c'est comme tu veux. Mais que tu puisses dire en ton cœur, j'ose croire Dieu. Enseigne-moi l'humilité. J'ai besoin d'être comme le Christ, humble de cœur. Tu vois, dans les cœurs de plusieurs personnes, cette prière qui monte à toi, Seigneur Jésus, qui crie à toi pour de l'humilité, pour voir l'autre en devenir. Seigneur, je te prie d'aider, de fortifier, de soutenir. Tu entends aussi la prière de quelqu'un qui est en train de prier un jour pour qu'il puisse avoir un foyer et qui demande l'humilité. Ma prière est pour lui aussi, que tu puisses l'accompagner pour qu'il développe cette attitude de cœur. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à être une église dont les foyers, les couples pratiquent l'amour sacrificiel. Je sais que ce n'est pas simple, Seigneur, on a tellement, tellement encore à apprendre. Mais parce qu'on veut être dans l'humilité, on veut te dire, Seigneur, apprends-nous à avoir un amour qui se donne. Sauve-nous de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Tu as dit que tu es mort à la croix pour vaincre le péché. Et je crois, Seigneur, que c'est le bon jour pour des couples qui sont en train de lâcher prise et qui sont en train de te dire, pardonne-nous, Seigneur. Le péché ne peut subsister là où il y a la croix de Jésus-Christ. C'est ce que nous proclamons ce matin. Je te prie pour des couples qui se disent, mais quel témoignage avec tout ce qu'on a traversé. Quel témoignage, on prie Dieu et Dieu ne nous exauce pas parce qu'on n'arrive peut-être pas à avoir un enfant, parce qu'on a eu des hauts et des bas. Je te prie de renouveler un couple dans cette salle qui a besoin d'entendre que son témoignage, Dieu veut en faire un témoignage. Seigneur, je te prie d'exercer leurs oreilles pour qu'ils puissent écouter comme des disciples écoutent. C'est-à-dire qu'ils écoutent la voix du bon berger, pas de chrétiens culpabilisants ou légalistes qui veulent leur faire croire que c'est par nos œuvres qu'on plaît à Dieu. Non, c'est par notre repentance, c'est par notre obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors je te prie pour un couple qui a besoin d'entendre que Dieu veut guérir son couple, fortifier son couple, parce que Dieu veut que son mariage puisse le servir pour sa gloire. Je te prie pour tous les couples de l'Église. Je te remercie pour nos papis, nos mamies, pour leur expérience, pour leur fidélité. Depuis tellement d'années, ils s'aiment. Ils ont eu des hauts et des bas. Je les bénis dans le nom de Jésus ce matin et nous les bénissons encore pour qu'ils continuent à s'aimer et qu'ils continuent à nous montrer qu'en Jésus, c'est possible. Oh, on sait qu'ils ont eu des combats, Seigneur, nos papis, nos mamies. Mais on veut les bénir ce matin et être reconnaissant pour eux. Je voudrais te prier pour celles et ceux qui passent par des temps de veuvage, qui ont perdu leur être aimé. Je te remercie pour l'Église qui a pu en entourer. Mais ce matin, je crois que de la part de Dieu, Dieu veut dire à quelqu'un, tu n'es pas oublié, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime. Dieu guérit les cœurs brisés. Il relève. Il rend libre. Et nous voulons prier pour toi. Prier pour quelqu'un qui a divorcé, qui est en souffrance, qui parfois est encore en train de se culpabiliser. Nous croyons que tu es le Dieu des nouveaux commencements. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui entend l'humilité des cœurs et dans ta grandeur, tu rétablis. On te prie pour des couples qui veulent avoir des enfants qui n'arrivent pas. Nous prions pour qu'un miracle puisse avoir lieu dans le nom de Jésus. Et nous prions aussi, parce que nous voulons croire dans la souveraineté de Dieu. Le mariage est un mystère, l'exaucement reste un mystère. Mais je veux prier, nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont à cœur de faire des disciples, d'engendrer des enfants spirituels aussi. Nous te prions, Seigneur, vraiment de faire grâce dans ces sujets si sensibles, mais que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, soit encore l'objet de leurs pensées. Nous les bénissons, nous voulons leur dire dans ta présence, nous les aimons, nous vous aimons. vous couples de l'épi qui passez par des épreuves comme cela. Seigneur, je te prie pour qu'on puisse être des mariages fertiles. Fertiles en fruits de l'esprit, fertiles en enfants naturels et fertiles en enfants spirituels qui vont devenir un jour des disciples. Alors à toi toute la gloire. Et si l'Église est OK avec cette prière et dit « Nous voulons voir ta gloire là-dedans », vous pouvez applaudir le Seigneur si vous le désirez ce matin. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Que Dieu rende l'épi fertile. Que Dieu rende l'épi fertile. Que Dieu rende l'épi fertile. C'est la prière de notre cœur. Alors soyez bénis et que toute la gloire toujours revienne à Dieu. Il ne nous abandonnera jamais.
We love all.
Ne me laissera jamais. Je pense que c'est une parole qui fait du bien quand on quitte toutes les brasseries comme ça, de se rappeler après une thématique aussi challengeante, aussi concrète, parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Il ne vous abandonnera jamais. Si le message vous a parlé, si vous avez besoin d'être écouté ou compris pour vous, il y a toujours l'espace écoute et prière ici à ma gauche. Donc n'hésitez pas à venir. On est aussi disponible en semaine pour des rencontres pastorales. Donc n'hésitez pas. Il y a différents stands par rapport aux annonces qu'on a faites, donc les inscriptions par rapport aux aînés, par rapport aussi aux femmes, Women's Day. Vous pouvez déjà, normalement, on m'a dit qu'on pouvait s'inscrire finalement, donc allez-y, n'hésitez pas. Les places ne sont pas limitées pour ça, mais pour les aînés, oui. Donc c'est un rendez-vous, c'est des rendez-vous à ne pas manquer. Donc bonne célébration à chacun, bon dimanche. Bon retour, pardon, je me fais avoir tout le temps. Bon retour à chacun, bon dimanche.